Oxyform. Oxyform. Tous les mercredis à 17h sur Esprit Occitanie. Sur Esprit Occitanie. Avec Romain Galtier.
Pour cette 6e émission, nous allons parler de bien des sports. Pour commencer, je vais aborder le tir sportif. C'est un sport individuel méconnu, le tir sportif s'est pourtant démocratisé, il est ouvert aux amateurs depuis la fin des années 70. Il comprend un grand nombre de disciplines, qui consistent à effectuer les tirs les plus précis possibles sur une cible à l'aide d'une arme, pour obtenir un maximum de points. Selon la discipline choisie, les tirs se font à la carabine, au pistolet, voire à l'arbalète ou à l'arme ancienne. Couché, à genoux ou debout. À 10 mètres, 50 mètres ou 300 mètres, ce qui laisse à chacun le choix. Vous allez me dire, mais pourquoi le tir ? Contrairement à ce que l'on aurait tendance à penser, le tir sportif n'est ni violent ni dangereux. Au contraire, c'est un sport extrêmement encadré, très sécurisé et qui fait appel au physique comme au mental. Il nécessite une très grande précision et une grande concentration. C'est un sport intéressant pour réussir à gérer ses émotions et à vaincre son stress. Vous apprendrez à contrôler votre respiration et à vider votre esprit. Quel équipement faut-il prévoir ? Pas besoin de tenue particulière pour pratiquer le tir sportif. Si ce n'est une tenue sportive confortable et une bonne paire de baskets. En revanche, il vous faudra acquérir une arme. Selon la discipline choisie et après inscription dans un club homologué par la FFDT, Fédération Française de Tir, vous obtiendrez une licence qui vous permettra d'acheter un pistolet ou une carabine à usage sportif. Si par la suite, vous pratiquez de plus en plus, un casque anti-bruit, des lunettes de protection et un télescope pourront s'avérer utiles. Pour toute information, le championnat de France de tir cette année s'est déroulé à Tarbes du 6 au 10 février au Parc des Expositions. Cela peut paraître étonnant, mais aujourd'hui, le tir sportif est le troisième sport individuel pratiqué dans le monde, après le tennis et le golf. Aujourd'hui, nous avons le plaisir sur Esprit Occitanie de recevoir un ancien sportif de haut niveau qui aujourd'hui exerce la profession de coach sportif. Notre invité va nous expliquer son parcours et sa passion pour le sport et l'activité sportive dans la nature. Bonjour Pierre Albi.
Bonjour Romain.
Alors, vous avez fait toutes vos études à Toulouse ?
Et non, j'ai commencé mes études à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, où j'ai pu donc faire mon Doug Staps. Après, je suis parti sur Poitiers pour faire la licence et terminer à Toulouse, ville où je réside aujourd'hui.
Donc vous avez commencé par Brive-la-Gaillarde, vous avez fait une partie de votre formation Staps, ensuite vous êtes parti...
J'ai continué sur Poitiers, licence professionnelle, et je suis venu faire une seconde licence et un master sur Toulouse.
D'accord, donc ça s'est bien passé cette formation de Staps ?
C'était une formation que j'ai choisie dès le départ, après le bac, et c'est une formation qui m'a rempli de joie au niveau aussi bien des connaissances du sport et du corps humain, sur ces différents aspects qui peuvent être aussi bien anatomiques que psychologiques, et donc de la compréhension des différentes disciplines sportives qui nous environnent.
Et vous étiez sportif de haut niveau en parallèle de ces études ?
Et c'était à la période où j'étais dans le haut niveau, exactement, où je pratiquais beaucoup, effectivement.
Donc vous pratiquiez le tir, l'escrime, enfin une liste assez
Alors,
conséquente de sports.
C'était avant, je pratiquais l'escrime à l'époque de l'adolescence. Et parallèlement à ça, suite à des antécédents médicaux de croissance, j'ai dû me rabattre sur des disciplines sportives un peu moins orientées vers le mouvement. Donc le tir se présentait à moi comme une solution, puisque c'est une discipline qui est très statique. Et j'ai pris goût à cette discipline rapidement. Jusqu'à m'entraîner plusieurs fois par semaine, de nombreuses heures, pour avoir après le niveau nécessaire.
Donc ça, c'est vraiment... Le sport, c'est une passion depuis tout petit ?
Depuis tout petit, oui. Ouais.
Et vous entraînez quotidiennement ?
Effectivement, quand j'étais adolescent, je m'entraînais très régulièrement. Et cette passion pour cette discipline m'a amené à... communiquer dessus, à recruter et à participer à la vie associative du club et donc à entraîner aussi un peu plus tard, hein, lorsque vers les 18-20 ans, j'ai commencé à suivre l'école de tir avec le staff du club. Et là, c'est une seconde porte qui s'ouvre et c'est encore plus plaisant.
Ouais. Donc sur cet aspect associatif club, nous y reviendrons après. Mmh. Pour l'instant, je vois votre liste de formations qui est quand même impressionnante. Vous avez fait en effet STAPS, mais vous avez d'autres diplômes universitaires d'encadrement en moyenne montagne.
Oui, effectivement, c'était à l'époque de Poitiers. J'ai toujours eu un goût très prononcé pour tout ce qui se passait en nature, ce qu'on appelle les sports pleine nature, avec le VTT, la randonnée, l'orientation. Et donc j'ai passé en parallèle de mes études ces diplômes universitaires qui permettent justement d'encadrer des personnes, aussi bien individuellement qu'en groupe, en pleine nature.
Et vous faites souvent de la montagne ?
En loisir, quasiment tous les week-ends.
Donc c'est, là, c'est plus du cadre de la passion que de la profession.
Exactement. C'est quelque chose qui... c'est un environnement, la montagne, qui, et même tout ce qui est nature. Ça peut être les forêts, ça peut être la campagne, qui nous permettent de s'évader, de se ressourcer, de quitter la ville et de quitter la routine du quotidien.
Donc en effet, il y a un côté sportif, il y a un côté santé, parce qu'effectivement l'air est plus pur et on pratique de l'activité physique, mais il y a aussi un aspect bien-être pour le mental de se dépayser, d'être dans de beaux paysages.
Ouais, de découvrir de la gastronomie, du patrimoine, des espaces, des paysages qui sont peu communs. Ouais.
C'est vrai que dans cette région d'Occitanie, on est comblé sur les...
Les Pyrénées sont magnifiques.
Exactement. Ensuite, je vois que vous êtes instructeur fédéral en tir sportif, donc vous avez fait du
oui,
tir.
C'est l'instructeur, donc c'était des différents diplômes fédéraux qui permettent justement à différents niveaux d'intervenir et d'encadrer jusqu'à entraîner pour accompagner les personnes de niveau d'initiation jusqu'à la compétition à différents niveaux, hein, qui peuvent être régionaux, voire nationaux. Oui.
Et vous avez commencé le tir à quel âge ?
Et bien, lorsque j'ai eu la maladie de Schlatter, qui est donc un problème de croissance au niveau des cartilages, le médecin m'a dit, Pierre, soit tu continues à faire ce que tu fais et donc tu vas avoir des problèmes au niveau articulaire, et ça sera l'opération, soit tu restes sage pendant 1 ou 2 ans, le temps que la croissance se stabilise. Bon, ben, j'ai fait le choix de rester sage et de me mettre au tir à ce moment-là. C'était à l'âge de 13 ans. Ouais, 13 ans.
Donc on peut commencer jeune le tir, il n'y a pas d'idée reçue de
ça. L'école de tir commence à 8-9 ans. Donc on peut commencer très jeune.
Ensuite, je vois que vous êtes instructeur Kettlebell Rowing TRX.
C'est ça, oui. Donc ça, c'est différent. Ça, c'est pas un outil avec lequel j'ai fait de la compétition, c'est un outil qui me sert dans mon travail. C'est un outil que je pratique pour m'entraîner, mais aussi que je fais pratiquer à mes clients. Donc, bien sûr, pour pouvoir être opérationnel avec ces outils-là, j'ai fait appel à des instructeurs compétents, de par leur connaissance, mais aussi de par leur bagage sportif, puisque, par exemple, la kettlebell, on partait de la kettlebell, M. d'Auvergne, qui a été multiple recordman mondial et national au niveau des compétitions, m'a instruit sur ses mouvements et me suit depuis 2 ans. Il m'a fait passer le level 1 et le level 2, effectivement.
Et donc, je vois aussi que vous faites des cours de CrossFit.
Alors, j'ai passé les certifications CrossFit avec des spécialisations, y compris le Strongman. Le CrossFit a apporté beaucoup au fitness et à l'approche qu'on a du fitness et me sert non pas pour faire des cours, mais pour construire certaines séances pour certains besoins, pour certaines personnes, effectivement, oui.
Alors effectivement, le CrossFit, j'ai rencontré beaucoup de gens qui peuvent être du monde de l'athlétisme, du trail, enfin, de plein de domaines, et tous ces personnes m'ont apporté un retour positif du CrossFit en termes d'aspect ludique, de développement personnel, de cohésion.
Exactement, pour le CrossFit, moi, ce que je pourrais dire de cette discipline, qui est un sport, hein, donc, qui est une marque et un sport, c'est qu'il permet de chambouler un peu les règles traditionnelles de la préparation physique. Donc effectivement, on sort de la routine de préparation et de programmation traditionnelle en apportant quelque chose de nouveau et qui rende les séances rythmées et variées. Je ne dis pas qu'il faut remplacer toute la programmation par le CrossFit, mais je dis que ponctuellement, on peut se servir de ces outils pour apporter quelque chose de différent.
Et puis, c'est même bien autant mentalement que physiquement, pour traumatiser le corps différemment, de changer de rythme, d'activité et même de découvrir d'autres...
Ça permet de chambouler le corps, voilà, de le brusquer un petit peu, effectivement.
Et on parle de brusquer le corps, mais vous avez aussi une formation de coach Compex, thérapie et préparation physique. Donc là,
exactement. Pouvez... Alors là, le Compex, c'est un outil aussi qui me permet de récupérer. C'est-à-dire que ça permet donc c'est l'électrostimulation que l'on applique sur des secteurs précis du corps, et ça permet donc de permettre au corps de par les programmes de récupérer par des systèmes de recrutement. De massages plus ou moins intenses, mais aussi du travail d'intensité. Donc on peut renforcer le corps avec le Compex. Ouais.
Donc on peut se muscler sans courir, juste avec une petite machine et...
Alors attention, vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. L'outil Compex permet de réhabiliter un muscle post-opératoire chez le kiné, par exemple. Mais moi, je m'en sers à travers cette formation. Par exemple, lors d'entraînements de force, de force pure sur le haut ou le bas du corps, en mettant ce dispositif en place sur le corps et en faisant des mouvements de musculation. Donc on peut très bien faire un squat lourd avec des électrodes sur les jambes et amplifier le recrutement musculaire avec la stimulation du complexe.
Donc la stimulation du complexe rend l'entraînement plus intense, mais ça reste un entraînement.
On peut rajouter pas mal de pourcentage d'intensité durant la séance, effectivement, en mettant de manière additionnelle ce dispositif, ouais, effectivement.
Et ensuite, je vois que vous avez le BNSSA plus le secours en équipe. Donc là, C'est plutôt le milieu aquatique.
Oui, oui. Alors, ça, c'est quand j'étais étudiant. Ça me permet de pouvoir de travailler un peu l'été et de faire des sous pour l'année. Oui, effectivement.
Et vous pratiquez toujours la natation ?
Beaucoup, non, plus du tout. Il faut faire des choix au niveau. On n'a pas un planning qui est.
Qui permet de tout faire.
On ne peut pas tout faire, donc effectivement. Mais c'était une belle période.
Et oui, j'imagine que vous avez dû faire pas mal d'activités extérieures, d'où votre goût aussi pour les sports d'un
pouvoir travailler en extérieur, souvent sur des bords aquatiques, c'est très agréable, effectivement.
Et donc actuellement, en loisir, vous pratiquez encore le cyclisme, la randonnée
Aujourd'hui, effectivement, mon temps libre sportif est dédié au cyclisme, en particulier le VTT, sur différentes formes de randonnée pour le loisir et d'enduro, qui est un format plutôt descendant hein, dans la discipline, avec un petit peu de montée pour la compétition, et que je partage avec mon ami. Et je continue la randonnée, je continue toutes ces activités en plein air qui sont agréables.
Et vous avez été guide touristique en Écosse.
Et donc oui, de par la formation que j'ai pu passer à la faculté, j'ai passé 5 mois en Écosse, où durant cette période, j'ai pu travailler avec une structure de tourisme qui organise des sessions de visites locales sur Édimbourg, mais aussi un peu plus large au niveau des Highlands, dans lequel on faisait de la découverte du patrimoine, gastronomie et activités physiques et sportives à base de kayak, de randonnée, de cyclisme. Ouais.
Donc ça, c'est sportif, mais c'est agréable.
Je crois que c'est l'essence même de l'activité physique, de pouvoir avoir du plaisir en pratiquant, effectivement.
Donc vous parlez de gastronomie, le sportif est aussi un fin gourmet.
C'est sûr.
Vous avez eu l'occasion de beaucoup voyager pendant vos formations, vos activités sportives.
Je suis assez curieux. Et, effectivement, c'est vrai que j'aime beaucoup, à travers le sport, pouvoir se servir de ce support pour découvrir des territoires. Et effectivement, la gastronomie est l'un des caractères importants du patrimoine de la France. Et je n'hésite pas à aller découvrir ce que chaque territoire fait de meilleur. Oui.
Ensuite, le goût de la nature, comment est-il venu à l'origine
Je crois que c'est parce que j'ai grandi un peu à la campagne et que à la campagne, quand on a 8 ans, 10 ans, on construit des cabanes dans les bois et qu'on a des copains qui aiment construire des cabanes dans les bois et que le mercredi et le week-end, on est dans les bois et qu'on s'amuse comme ça. Donc je crois que c'est tout à fait naturel, c'est venu comme ça.
Et donc les périodes étudiantes, c'est un peu un déracinement pour les gens habitués à la nature et c'est vrai que
Oui, mais on ne le quitte pas, là. On ne quitte pas la nature.
On ne quitte pas, on reste connecté.
On reste connecté.
Et vous avez parlé des Pyrénées, mais du coup, le ski, vous pratiquez aussi ?
Je pratique le ski, effectivement. Le snowboard. Oui, snowboard, effectivement. Ouais. Et les Pyrénées offrent de très belles stations. C'est très agréable.
Effectivement. Ouais. Nous allons maintenant faire une première pause musicale avec un morceau choisi par Pierre qui s'appelle « What I Might Do » de Ben Pierce.
For the night, get it. By then, I just sat at the back, keeping you out the way you act. Every string and deck, getting out of line. I'm making you back in your place. All is well and all is good. Stay in your place. Don't be no fool, but get along, alright. You look like the type that would try to fight. Best off being a friend of me. You don't want to up in me. Better play it cool. Don't know what I might do. What it had to be when I heard you say what you said to me. Your baby do inside. Look like you're working up an appetite for the night. Check it. By then I just sat at the back, keeping you out the way you act. Give a string and that. Getting out of line, I'm making you back in your place. All is well and all is good. Stay in your place. Don't be no fool, but get along, alright. You look like a type that would drive by. Best off being a friend of me. You don't want the love in me. Better play it cool. Don't know what I might do. Appetite for the night, yeah, get it. By then, I just sat at the back, keeping you out.
Nous sommes de retour avec Pierre Albi. Oui. Alors maintenant, nous allons parler de son parcours en tant que sportif. Donc vous êtes entraîneur de tir bénévole.
Exactement.
Au sein d'un club.
C'est mon club que j'ai depuis le début que je pratique le tir, qui s'appelle la Société de tir briviste, qui est à Brive-la-Gaillarde, effectivement.
Donc voilà, c'est un peu votre fief.
C'est mon fief, ma maison, c'est ceux qui m'ont formé, qui m'ont amené, m'ont accompagné. Et maintenant, c'est le club dans lequel j'interviens et je pratique avec plaisir.
Et vous avez des mentors ?
Quand on est pris en charge au départ, lorsqu'on ne connaît rien, qu'on est novice, on a des personnes qui sont référentes. Et effectivement, j'ai plusieurs personnes qui ont contribué à me faire évoluer dans le tir. À différents niveaux, hein, que ce soit Gérard Philippe au niveau du club ou au plus haut niveau, au niveau fédéral, avec Yves Lejard. Ce sont donc Yves Lejard aussi qui est recordman de plusieurs disciplines à l'arme d'épaule et qui m'ont suivi, épaulé dans ma démarche.
Et pour le tir, sachant que c'est un sport où il y a énormément de licenciés, vu que c'est, comme on l'a dit à l'éditorial, un des troisièmes sports individuels mondiaux les plus pratiqués.
Exactement.
Est-ce que c'est pas un peu bouché ? Est-ce qu'il n'y a pas du mal à rentrer dans un club par rapport à cette...
Effectivement, depuis quelques années, après le changement de la législation qu'il y a eu il y a quelques années, il y a eu un développement du nombre de licenciés qui était assez exponentiel. Et aujourd'hui, suivant les régions, c'est vrai difficile d'accéder à un club, de pouvoir y rentrer, puisque souvent c'est sur recommandation ou sur file d'attente. Mais on trouve encore des clubs ouverts, agréables, dans toute la France.
Et en tant que sportif de haut niveau en tir, vous avez eu des titres, des podiums, vous avez fait...
Et effectivement, donc j'ai eu plusieurs titres, plusieurs, donc pas au niveau national, mais au niveau un peu plus interrégional et régional, des records de points. Et après, plusieurs fois finaliste national à l'arme d'épaule.
Vous pouvez nous expliquer comment se déroule une séance de tir, comment, selon l'activité, parce que je vois qu'il y a de la carabine à 10, 50, 200 mètres, il y a du pistolet.
En fait, vous savez, quelle que soit la discipline, la méthode reste la même. Le tir, en fait, c'est un sport de concentration, c'est un sport qui est extrêmement méthodique. Une séance type, ça va être une séance où on prépare son matériel. C'est une séance, durant cette préparation, on se met dans une bulle, on vient chercher à se concentrer et à préparer la séance d'un point de vue mental. Ensuite, il y a toute la phase d'échauffement, de mobilisation et la phase d'entraînement. Le tir en tant que tel, c'est réussir à faire le coup parfait, à faire le coup parfait et à le répéter. Puisque un match se déroule soit en 60, soit en 40, soit en, enfin, y a un nombre de coups à tirer, et il faut le répéter autant de fois que possible. Et ce tir parfait est possible grâce à la séquence mentale. Donc c'est une démarche intellectuelle, le tir est à 75% intellectuel et mental. Donc comment créer le geste parfait pour faire l'impact parfait ?
Et vous avez vous-même formé des jeunes ?
Alors j'ai participé à la vie du club au niveau instruction, au niveau de l'école de tir pour la carabine. Pendant quelques années, j'ai accompagné le club dans cette démarche, aussi bien au niveau de l'initiation, la découverte, que le développement pour la compétition.
Et ça doit être gratifiant de voir des jeunes progresser, de leur inculquer.
C'est un grand plaisir de transmettre ce qu'on nous a transmis, effectivement.
Et de les voir,
Réussir.
Réussir.
Oui, exactement.
Ensuite, vous avez pratiqué l'escrime en compétition également.
Alors ça, c'était un peu plus avant. Ça, c'est quand j'ai pratiqué l'escrime entre 8 et 15 ans, avec d'abord du fleuret dans un premier temps, puis après, c'est au sabre que j'ai pu être plus performant, avec des titres au niveau régional et interrégional.
Donc ce sont des armes aussi, mais on va dire que l'escrime est plus un sport de combat, alors que le tir, c'est vraiment individuel.
C'est exactement ça. Je ne comparerai pas le tir et l'escrime, parce que les deux utilisent des armes, effectivement. L'escrime est un combat, hein, c'est de la touche. On vient de toucher l'adversaire est en face de soi et on veut le toucher. Le tir est un sport individuel sans adversaire direct. Et l'objectif, c'est de faire ce qu'on sait faire de mieux. Pour être premier au tir, il faut faire ce qu'on sait faire, faut faire ce qui est le plus performant. Alors qu'à l'escrime, il faut être juste le meilleur de celui qui est devant soi et de le toucher.
Et donc, quel est le public dans le tir ? On trouve de tout type de
personnes. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que le public du tir est socialement très varié. Ça passe des enfants pour l'école de tir qui commencent à 8 ans, les adolescents. On a des gens qui sont dans différentes sources professionnelles. On a des cadres, on a des employés, on a des ouvriers, on a des personnes qui sont plus ou moins âgées. Et toute cette population vit dans un équilibre et dans une atmosphère qui est assez agréable.
Ouais, donc il y a une bonne ambiance dans un club de tir.
Il y a toujours une très bonne ambiance. Et le tir regroupe un panel très large. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà.
C'est comme dans beaucoup de sports, par exemple, il y a quand même une activité sociale qui en découle en dehors du sport.
Et c'est un lieu de rencontre et surtout un lieu d'échange et de respect, puisque le tir véhicule des très fortes valeurs de respect, de par sa réglementation, de par la démarche administrative pour avoir des armes déjà. Donc ça implique le tireur dans du sérieux. Et ensuite, c'est un sport qui est assez exigeant, je dirais même presque élitiste, dans la performance. Donc cette rigueur d'entraînement que nécessite le tir fait qu'on a une cohésion et il y a de l'échange autour de cette discipline et qui fait que le samedi ou le mercredi, lorsqu'on se retrouve, on est bien, c'est convivial.
Et pour l'escrime, je suppose que c'est le même genre d'ambiance dans un club.
L'escrime, c'était différent, c'est de l'entraînement pur. C'est de l'entraînement pur. On était vraiment dans l'apprentissage et le développement de la performance. C'était de l'entraînement puisque le week-end il y avait les compétitions aussi qui arrivaient. Donc c'était, on va dire, un peu plus sportif, un peu plus exigeant. Oui.
Donc ça, c'est un sport assez dur.
Oui, effectivement, oui. Oui.
Sur le plan physique, oui. Sur le plan mental, j'imagine que ça doit être assez dur aussi.
On comparait les deux. On comparait le tir et l'escrime. Bien, effectivement, l'escrime nécessite d'avoir une préparation mentale très importante, mais ce qui est quand même moindre que lorsqu'on est sur un pas de tir avec une arme et qu'on doit pendant 1h30, 2h30, voire 3h être concentré de manière continue avec la prise en compte de tous les facteurs extérieurs, changement de lumière, le vent, la prise en compte de son stress, de son battement cardiaque, de son relâchement musculaire. Donc c'est différent.
Et donc un pas de tir, ça peut être à l'intérieur comme à l'extérieur.
Et suivant les disciplines, oui. L'air comprimé se fait en général à l'intérieur et les disciplines à poudre, comme le 22 long rifle ou les plus gros calibres, se font à l'extérieur, de 50 à 200, voire 300 mètres.
Oui. Même pour les armes de poing.
Et les armes de poing, effectivement, qui sont souvent à 25 mètres, voire à 50 mètres.
Donc en extérieur.
Exactement, oui.
J'imagine qu'il faut une distance assez conséquente pour pouvoir un bon terrain quand même pour pratiquer ce genre de...
Les clubs sont équipés de terrains plutôt excentrés, loin des habitations pour pas qu'il y ait de nuisances sonores. Et c'est effectivement des pas de tir qui sont grands, qui sont spacieux. Oui.
Alors vous pratiquez aussi le tennis, vous le faites en club ?
Alors je l'ai pratiqué pareil dans ma jeunesse, lorsque j'avais entre les 8 et 15 ans en parallèle de l'escrime. Je vous avoue que c'était vraiment plutôt du plaisir. C'était plus pour échanger, pour faire du jeu, et je n'ai pas fait de compétition avec.
Donc vous aimez la nature, la gastronomie et le sport. Oui. Dans notre région, vous avez des coups de cœur ?
Pour quel aspect ?
Pour l'aspect gastronomique.
Ah, vous savez, bon, je ne suis pas trop dans le courant actuel, je suis pour les bonnes viandes, vous savez.
D'accord.
Donc c'est vrai qu'à Toulouse, on a des très bons restaurants où on mange des très bonnes viandes.
Le cassoulet pour les sportifs, c'est compatible ?
De temps en temps.
Pour ne pas faire d'excès.
Pas faire d'excès.
Alors donc on peut dire que par rapport à vos clubs, vous êtes quand même acteur dans le développement sportif de notre région. Okay. Vous avez des projets dans la région ? Vous organisez par exemple des courses ou des...
Je ne suis pas acteur de projets de développement au niveau sportif. Je participe. Enfin, d'abord, j'ai mon projet professionnel d'abord, hein, qui me prend beaucoup de temps, développement de ma structure, qui est encore en train d'évoluer en ce moment. Et c'est vrai que le temps consacré à cela ne me permet pas d'être très actif sur d'autres projets.
Alors, vous pratiquez aussi le kayak, le canyoning et le parapente. Ouais. Donc, vous le faites à titre individuel ou vous le faites dans le cadre de votre métier ?
On le fait de manière individuelle, puisque ce sont des formats d'activité qui permettent de découvrir nos territoires et même la Terre d'une façon différente, avec un œil vu du ciel, vu depuis une falaise ou même sous terre avec la spéléologie. C'est fait pour... c'est une façon de découvrir l'environnement différemment.
Donc vous faites de la spéléologie, de l'escalade, ce genre de...
La spélo, c'est encadré. Hein. Je n'ai pas de diplôme pour pouvoir le faire seul. C'est vrai que faire de la spéléo, lorsqu'on est plusieurs, avec la petite lampe qui éclaire la pièce, c'est vraiment très spécial.
Il y a un aspect aventure, découverte, c'est très ludique. Je pense que les enfants doivent apprécier.
Les enfants apprécient, même les plus grands. Hein.
Oui, les grands-enfants.
Les grands-enfants.
Ensuite, pour parler du cœur de votre métier, vous êtes aujourd'hui coach sportif. Alors, quels sont le panel de disciplines que vous pratiquez dans, dans une séance de coaching? Qu'est-ce qui est disponible?
Alors, je me sers assez peu. Donc, bon, le coaching, souvent, est associé à une salle de musculation. Effectivement, oui, il faut une salle de musculation. Je me suis orienté vers une préparation physique qui n'utilise pas de machine guidée, par exemple. C'est-à-dire que je pars du principe que le mouvement qui va être entraîné en coaching sont des mouvements qui doivent être naturels et fonctionnels. Et évidemment, lorsque l'on fait du guidé, que l'on fait par exemple une machine qui va être guidée sur un développé ou sur un tirage, je pense que le corps ne sera pas efficace après, puisque dans la vie de tous les jours, le corps n'est pas guidé. Voilà. Et ensuite, je n'utilise quasiment pas de machine d'isolation. Une machine d'isolation, c'est par exemple une machine qui va travailler que le biceps ou que les abdos, par exemple, puisque, encore une fois, un muscle fonctionne en chaîne musculaire. Et dans la vie de tous les jours, ou même dans la discipline pratique et sportive, il n'y aura jamais d'isolation de travail. Donc, tout ce qui va être machine guidée, machine avec des restrictions, sont mis sur le côté. Ensuite, moi, j'adore tout ce qui va être les outils comme la kettlebell, les barres d'haltérophilie avec les mouvements d'haltérophilie, tout ce qui va être les medicine balls, enfin, tout ce qui permet de créer un mouvement puissant et efficace.
Donc, en fait, le côté isolation peut amener à des déséquilibres si ce n'est pas bien accompagné.
Vous avez tout à fait raison, Romain. Le problème de l'isolation, c'est que vous avez donc le corps qui est composé de chaînes musculaires et le fait de travailler qu'un seul maillon de cette chaîne peut déstabiliser toute la chaîne entière. D'accord ? Pour que la chaîne soit efficace, il faut que la chaîne soit homogène et régulière. Lorsque l'on va faire de l'isolation de manière démesurée sur un seul muscle d'une chaîne musculaire, on prend le risque de déstabiliser toute la structure.
C'est pour ça qu'en musculation, il vaut mieux être bien averti avant de se lancer sur des machines sans connaissance, au risque d'avoir des blessures ou même des déséquilibres comme on vient de l'aborder.
Exactement, et ça nécessite une réelle formation, une réelle initiation qui doit être faite avec du sérieux pour éviter tout bouleversement d'équilibre musculaire et toute pathologie qui peut en découler.
En tant que coach, quel type de suivi justement proposez-vous pour pallier à ce genre de problématiques pour les gens qui ne pratiquent pas le sport?
Il y a différentes façons d'accompagner la personne, mais je crois qu'il faut partir de ce que recherche la personne au départ. Dans le panel de personnes que je suis, on va avoir surtout de la réathlétisation, c'est-à-dire de la remise en condition. Souvent, c'est des personnes qui viennent me voir parce qu'il y a eu un laps de temps trop long sans activité physique et sportive et qu'il est dur de redémarrer seul. Voilà, ça, c'est la principale. Et donc là, c'est une démarche qui va être d'accompagnement, une prise en charge qui va être à hauteur de ce que peut faire la personne. Et après, il y a tout le niveau compétiteur qui vont chercher la performance. Voilà.
Et ce genre de compétiteur, justement, vous avez un public qui cherche justement à améliorer ses performances, à aller toujours plus loin.
Effectivement, oui, j'ai quelques personnes, quelques athlètes qui viennent me voir pour aller plus loin dans la compétition, comme Jean-Philippe en motocross, qui donc depuis quelques années maintenant me fait confiance pour toute la partie préparation physique et performe dans la motocross. C'est un des exemples. J'ai eu des triathlètes qui m'ont fait confiance dans ces disciplines-là. J'ai aussi Stéphanie qui est dans le crossfit, on en parle tout à l'heure, mais qui est compétitrice en crossfit et qui, pareil, commence à bien se débrouiller. Donc effectivement, il y a un panel qui est assez large. Ouais.
Quel est le retour d'un coaching en fait en termes humains, en termes de...
Alors, le retour que je peux ressentir, ça va être d'abord que la personne va être heureuse de progresser. Progrès sur différents points. On parle beaucoup, on associe beaucoup le sport et le physique, mais je crois surtout qu'il faut associer le sport et la santé, et du coup, le bien-être. Et le premier retour que j'ai souvent, c'est ça va mieux, je vais mieux, j'ai moins de douleurs. Je suis plus mobile, j'ai moins de... Le matin, je me lève plus facilement. Au travail, je suis plus dynamique. Le soir, je suis moins fatigué. Et c'est les principaux retours que j'ai et c'est ceux-là qui me font le plus plaisir.
Vous pratiquez aussi tout ce qui va être stretching, étirement, assouplissement?
Oh, ça c'est tout ce qui est stretching, étirement, c'est juste un des éléments parmi tout le panel de la prise en charge. C'est juste une phase, une étape de la séance. Mais il est indéniable que...
C'est compris dans une séance.
On ne peut pas, si vous voulez, je pars du principe qu'on ne peut pas créer du mouvement sans mobilité et souplesse. Hein, le mouvement vient de la souplesse, justement. Donc sans souplesse, il va être difficile de travailler. Donc effectivement, le cœur de séance va être la capacité de bouger dans l'amplitude.
Donc vous entraînez en salle ?
J'entraîne en salle, en centre de coaching, oui.
D'accord. Vous entraînez aussi en extérieur ?
Alors j'entraîne en extérieur sous différentes formes, mais la forme la plus actuelle est donc le bootcamp qui permet de travailler en groupe. En groupe qui peut aller de 4 personnes jusqu'à 10, 12, 15, 20 personnes. En plein air, en extérieur, et cela permet de créer, déjà de travailler à l'extérieur, permet de s'évader un peu plus et permet plus de mouvement. Et surtout, ça permet de créer une cohésion et de créer un team building dans l'équipe. Et on tombe dans le jeu.
Ça doit être galvanisant parce qu'on est à l'extérieur, donc on peut plus ou moins se lâcher.
On peut se lâcher. On revient au naturel, on revient à l'essence, on revient à l'origine.
Qu'en salle de sport, c'est vrai qu'on est un peu cloisonné, tout le monde se regarde, il y a des miroirs partout. Là-bas, c'est un peu, faut pas trop faire de bruit.
À l'extérieur, on peut se lâcher, on peut se rouler par terre.
On peut rigoler.
Il y a une vraie émulation. On tombe dans du jeu. On tombe dans du jeu. C'est ça qui est sympathique. Ouais.
Et le public, vous avez par exemple des entreprises, j'imagine, qui doivent faire des séminaires ou ce genre d'activités.
Les CE apprécient bien le bootcamp, puisqu'il permet de faire rencontrer dans un autre contexte les collaborateurs et brasser un petit peu les différents statuts pour se mettre dans un contexte sportif et de jeu. Et effectivement, les CE sont friands de ça.
Vous avez d'autres types d'activités en coaching, autre que l'extérieur ou que vous faites du domicile, vous allez chez les gens ?
Il y a eu beaucoup de domicile au départ, mais d'un point de vue organisationnel, j'ai préféré centraliser l'activité dans des centres dédiés à cela. D'une part parce que le matériel disponible est plus conséquent, donc la façon de travailler est plus complète. Voilà. Et une salle de sport est dédiée à cela. Donc la séance sera plus qualitative. Voilà. Donc je suis plutôt centré sur du centre de coaching, effectivement.
Vous préparez pour les concours ?
Effectivement, donc j'ai eu des demandes, hein, pour que ce soit pour la gendarmerie, pour l'armée, pour pompiers, donc de demandes spécifiques, puisqu'il y a dans ces concours des activités qui sont physiques, même d'ailleurs pour le STAPS, mais pour le CREPS, hein, où il y a des performances à faire qui sont quand même assez élevées. Donc il y a une demande spécifique sur des forfaits de moyen terme, hein, qui peuvent être de 3 mois jusqu'à 6 mois, où on prend en charge donc les nécessaires de l'évaluation et une préparation spécifique.
Que préférez-vous dans ce métier de coach ?
L'échange. L'échange, le rapport humain qu'il y a, puisqu'on est vraiment sur du one-to-one, on est en face-à-face, et je crois qu'il n'y a pas de métier plus agréable sur ce niveau-là.
L'aspect nutrition, comme j'en parle, est très important dans ce métier. Vous travaillez avec des partenaires, vous avez vous-même des formations
Le cursus STAPS donne les prérequis pour pouvoir comprendre et intervenir sur ce qu'est une alimentation saine et équilibrée. Il faut faire attention lorsqu'on parle de perte de poids ou de diététique ou de régime, puisque là on tombe dans la santé et le soin. Lorsque l'on commence à toucher aux quantités et au type de nutriments que l'on doit manger, on bouleverse un petit peu ce que doit manger le corps, gérer le corps, pardon. Et donc là on est sur du soin. Donc le nutritionniste va dire qu'il va falloir modifier les quantités et la qualité des nutriments. À mon niveau, je n'ai pas autorité pour faire ça, donc moi j'ai une prérogative pour parler de ce qu'on doit manger de manière normale, c'est-à-dire de bons macronutriments avec des quantités équilibrées et surtout des portions qui soient lissées sur la journée. Voilà.
J'ai justement entendu parler de pas mal de types de régimes qui se font comme le fasting où il y a des cyclages de calories. Est-ce que c'est dangereux, par exemple, pour les personnes de se lancer dans un régime comme ça sans suivre un diététicien ?
Vous savez, moi, encore une fois, à mon niveau, tout bouleversement par des carences, c'est-à-dire on prive le corps d'un certain nutriment, priver le corps de sucre, priver le corps de gras, priver le corps de certains de gluten. Ça veut dire que lorsqu'on va en remanger, il va être chamboulé. Donc, c'est-à-dire que je suis contre, dans mon propos, hein, lorsque je parle avec mes clients, je n'invite pas à faire des régimes. J'invite juste à manger de manière équilibrée et raisonnée, de bonnes choses, des produits qui sont locaux, qui sont faits de manière qualitative, bio ou non, peu importe, mais des bons produits avec de faibles cuissons et peu de compléments.
Parce que beaucoup, justement, l'énergie, on la puise dans l'alimentation, dans ce qu'on va manger. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas que la performance n'est pas que due à l'activité, mais aussi à l'hygiène de vie. Donc ça va être le sommeil, ça va être l'alimentation.
Etc. Effectivement, oui. Et beaucoup de pathologies, d'ailleurs, surviennent suite à une mauvaise alimentation, parce que le corps s'acidifie, parce que le corps manque de compléments alimentaires, manque de vitamines, de minéraux. Et avec l'entraînement et l'excès d'entraînement, on a une usure qui se fait avec une mise en tension et donc peut-être une inflammation, une tendinite, voilà, ça arrive.
Donc ça peut faire partie du coaching, de poser les questions aux personnes de...
Il est évident que lorsque une personne vient me voir et commence le cycle de coaching, on échange sur la façon de manger. On n'y passe pas beaucoup de temps, hein, c'est pas mon propos, mais je l'invite en tout cas à réfléchir à ce qu'elle mange, à comment elle mange, et si elle se rend compte qu'il y a un problème, contacter la personne compétente. Oui.
Donc l'aspect coaching, il y a quand même un côté social, il y a un côté où on va vraiment découvrir la personne, on n'est pas juste là pour lui donner un programme de sport, lui dire tu fais tant de répétitions sur tel exercice.
Une compréhension de la personne, une compréhension et un accompagnement.
Donc c'est quand même, il faut beaucoup d'empathie pour pratiquer ce métier-là.
Je crois qu'il faut de l'empathie, tout en restant à sa place, bien sûr. Mais pour pouvoir obtenir le meilleur de la personne et réussir à l'accompagner jusqu'au bout, puisque l'entraînement sportif est un entraînement qui est dur, puisqu'il est physique. Hein, on va chercher à fatiguer le muscle, on va chercher à faire monter le cardio, donc à être dans l'effort, donc du coup dans l'inconfort. Il faut réussir à ne pas brusquer la personne, mais tout en l'accompagnant jusqu'au bout de ce qu'elle peut donner.
Vous apprenez aussi de nouvelles techniques. Pendant votre métier de coach, en général, il y a tout le temps des technologies qui vont évoluer, par exemple sur l'électrostimulation ou sur d'autres techniques de...
Oui, effectivement, les techniques évoluent, mais les mouvements restent les mêmes. Les mouvements restent les mêmes. Et il faut, aujourd'hui, pour moi, la tendance, effectivement, il y a l'électrostimulation d'un côté... Bon, voilà, c'est un mode en ce moment. On verra dans 2-3 ans où ça en est. Maintenant, on est sur du mouvement qui est fonctionnel, sur le respect de la biomécanique, sur le respect de ce pourquoi on est conçu au niveau des mouvements. Et quelles que soient les tendances, l'idée du coaching et de l'accompagnement, c'est de permettre à la personne de mieux bouger en respectant son corps et de mieux bouger dans son quotidien. Voilà. Et si on arrive à faire ça, on a gagné beaucoup de choses.
Donc ça, le mouvement, depuis l'Antiquité, ça n'a pas bougé, ça reste des mouvements fonctionnels.
Voilà, on est fait pour être, depuis que l'on a des bras et des jambes, on est fait pour bouger. Et l'entraînement est dédié au mouvement.
Donc les techniques, ça va être vraiment du détail, de la spécialisation. Mais
exactement. Si au bout de l'entraînement, la personne bouge mieux et en santé, on a gagné.
Alors, nous allons faire une deuxième pause musicale avec un morceau que j'ai choisi qui s'appelle « Havana » de Camila Cabello. Hey.
He didn't walk up with that, how you doing?
Sur Oxyform avec notre invité Pierre Albi. Donc là, l'été approche, c'est bientôt le moment où l'on va se découvrir et exposer la belle silhouette à la plage. L'aspect sportif, justement, doit attirer du monde dans cette période.
On a un petit rush qui arrive à partir d'avril-mai. Alors, on a des gens qui se réveillent, qui se disent qu'il faut bouger un peu plus et préparer sa silhouette pour la période estivale. Et ça dure jusqu'à juin, effectivement.
Alors que l'idéal, ça serait de commencer plutôt l'hiver, de garder le rythme constant toute l'année.
Et l'idée, voilà, c'est pourquoi se focaliser sur la silhouette de l'été, puisqu'en fait, on travaille sur sa santé, hein, sur son corps, et non pas sur une silhouette. Je tiens ce propos avec toutes les personnes qui viennent me voir. Et souvent, d'ailleurs, les personnes qui passent à l'acte et acceptent le suivi s'éloignent de cette notion de silhouette et de balance, hein, de poids, pour venir chercher donc, du mouvement et de la santé. Et donc du coup, au lieu de faire un rush, de faire juste 3-4 mois pendant l'année pour être prêt l'été, on a un engagement qui est sur l'année, quelle que soit la saison, quelle que soit la période.
Et comme disent les grands philosophes, l'intérieur va se refléter sur l'extérieur. Donc si on est bien dans sa tête, dans son corps... Et...
Le reflet de l'âme, effectivement. Oui.
Ouais. Donc sa santé est primordiale parce que le corps changera en fonction de l'état d'esprit de la personne.
Tout à fait, oui, tout à fait.
Justement, cet aspect santé, vous parlez du... Quel est le rapport avec le mouvement et la fonctionnalité d'un mouvement, voilà. Cet aspect santé?
Alors, l'idée, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de personnes pratiquent le fitness, s'entraînent en dehors d'un cadre, on va dire, sportif. C'est-à-dire que je dis aussi bien l'activité sportive qui envoie une discipline, le vélo, le baseball, le golf, par exemple, et donc la pratique du fitness, où on est dans une centre de fitness, où on fait de la musculation stricte, ou même des cours collectifs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre à quel moment ce qu'on va imposer à notre corps, l'entraînement qu'on va imposer à notre corps, à quel moment va apporter du bénéfice et à quel moment ça va être de la pathologie, de la maladie. C'est-à-dire qu'il y a un curseur qui se bat entre les deux, c'est-à-dire je bouge, je fais un entraînement. Est-ce qu'à la fin de l'entraînement, je générerai de la santé ou est-ce que je générerai de la pathologie? Est-ce qu'au bout de 3 mois d'entraînement de musculation, je suis en meilleure santé? Et on se rend compte que dans beaucoup de salles de fitness, ben les gens, les personnes, les pratiquants repartent avec un début de tendinite sur l'épaule. On a le dos, le carré des lombes, les lombaires qui chauffent. On a les genoux qui commencent un peu à siffler avec une tendinite sur le ligament. L'idée, c'est de positionner la personne dans ce contexte-là, de la faire comprendre que le mouvement, s'entraîner, c'est pas juste bouger, mais c'est bouger pour avoir une meilleure condition et un meilleur mouvement.
comment les gens en viennent à justement ce genre de blessure par ce genre de mouvement, en fait?
Par surentraînement, déjà, par sursollicitation. Prenons l'exemple un peu typique de l'homme qui vient s'entraîner en musculation pour faire du développé couché, pour avoir une bonne ceinture scapulaire avec des pectoraux très saillants. Donc on va avoir un surentraînement sur ces groupes musculaires avec comme résultat un déséquilibre avec les chaînes dorsales, par exemple. Donc on a un déséquilibre antéro-postérieur qui va entraîner un déséquilibre de l'omoplate, une déstabilisation de l'omoplate avec une épaule qui va un peu monter, qui va se projeter en avant. Et au bout de 4-5 mois, voire 6 mois, pas plus, on peut avoir donc un début de tendinite sur les épaules, sur le supraépineux. Et c'est un exemple qui est récurrent, que je crois que beaucoup de monde, beaucoup de pratiquants de musculation ont connu. Ça peut être vrai aussi avec des mauvaises techniques sur les squats, avec des mauvaises positions, ou avoir un genou qui va être trop sollicité. Ou alors encore au niveau du dos, au niveau des lombaires, avec un carré des lombes qui va bien compresser et qui va créer des lombalgies. Oui.
Il y a aussi la gestion de la fatigue et du stress. Je pense qu'il faut savoir aussi à des moments vraiment arrêter et faire un repos passif.
Exactement. Accepter d'avoir mal, accepter d'avoir une pathologie et accepter donc de cette pathologie de faire une pause et de ne pas s'entraîner dessus. Puisque si le corps a mal, c'est s'il renvoie un signal de douleur, c'est que c'est une alerte. Et une alerte, ça veut dire qu'il faut faire un stop.
Après, il y a un aspect génétique, je pense, qui rentre en compte. Dans...
L'aspect génétique, effectivement, on est tous différents avec des métabolismes différents et des morphotypes différents. On consomme de l'énergie différemment, plus ou moins. On est naturellement plus ou moins étoffé, plus ou moins fin, plus ou moins large. Et effectivement, on n'est pas tous égaux face à la silhouette recherchée. Donc, il faut le prendre en compte. Et peut-être que de vouloir... le combattre de manière excessive serait peut-être déjà un combat un peu perdu. Il faut être conscient de ce que l'on est et respecter son corps pour ce qu'il est.
Ça me fait penser à ces strongman, ces personnes qui ont des gros ventres, mais qui sont les hommes les plus forts du monde et qui arrivent à soulever des poids de 500 kilos.
Exactement, oui.
C'est complètement impressionnant et pourtant ils n'ont pas le physique d'un bodybuilder sculpté.
Effectivement, alors ça c'est là on évoque les différentes filières énergétiques que compose notre corps et effectivement ces gens sont forts. Ils sont forts, ils tendent à être les plus forts du monde. Et est-ce que parce qu'on voit du muscle et qu'on est peu de gras, est-ce qu'on peut comme un culturiste, est-ce que ces personnes-là sont fort aussi, oui, elles le sont aussi. Mais le strongman dont on parle doit faire un effort maximal pendant moins d'une minute. Donc, il peut très bien être un peu enrobé, c'est pas bien grave, du moment qu'il a la force dessous pour soulever la charge.
Et dans ces domaines-là, comment on atteint l'excellence? Comment on devient le meilleur? Qu'est-ce qui amène à ça?
C'est une question qui est très compliquée. Je crois que on pourrait faire toutes les thèses du monde sur ce sujet, il y aurait toujours de nouveaux éléments pour essayer d'y répondre. Mais si on prend déjà en compte la motivation, ce qu'on veut, si on est déterminé, on peut faire beaucoup de choses.
Nous allons maintenant passer à la séquence littéraire.
La minute littéraire d'Oxyform.
Alors, pour le choix de l'invité, vous avez choisi un livre qui s'appelle Le gène du sport. Pourquoi ?
C'est un ouvrage qui traite d'un sujet très particulier, qui est en fait qu'est-ce qui fait qu'une personne, un jour, va devenir la meilleure du monde, la championne du monde, la championne olympique d'une discipline sportive.
Donc ça répond à la question que je vous ai posée précédemment.
Tout à fait. Et cet ouvrage y répond en partie, mais évoque surtout des pistes, des raisonnements, et essaye de détailler les différentes filières qui font qu'une personne parvient ou ne parvient pas à être dans l'excellence.
Donc ça peut être l'environnement, ça peut être beaucoup de choses.
Ça va de l'environnement, de la personne en tant que telle, de son patrimoine, oui, effectivement.
Donc c'est Le gène du sport de David Epstein. Nous allons maintenant passer au conseil de lecture d'Oxyform. Donc j'ai choisi un livre qui s'appelle Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki. Alors c'est un livre de développement personnel, mais plutôt axé sur l'éducation financière. Ce livre apprend à ne pas travailler au service de l'argent, mais à mettre l'argent à son service. L'auteur est considéré comme audacieux et insolent à cause de son franc-parler. Personnellement, je l'ai trouvé très intéressant. Il a une approche atypique de l'éducation et notamment de la finance. On va maintenant parler course à pied.
Les courses à venir dans la région.
Alors, pour les courses, nous commençons par le samedi 21 avril 2018. Nous avons le relais nocturne de Lossonnel, une course de 5 ou de 10 km. Ensuite, nous avons le ronde du Chardon le lendemain, le samedi, le dimanche 22 avril 2018, qui vous propose une course de 5 ou de 10 km à Montgiscard.
Oxyform. Oxyform.
Nous remercions Pierre Albi.
Je vous remercie aussi, Romain, d'avoir invité.
Vous étiez sur Oxyform, une émission de Romain Galtier. Nous remercions Jean-Louis Arzac à la technique. La semaine prochaine, nous retrouverons un autre coach sportif qui nous parlera du fitness et de son monde. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur la page Facebook de l'émission Oxyform ou Esprit Occitanie, ainsi que sur le site de la station sur www.oxyfit.fr. Je vous souhaite une bonne soirée, à la semaine prochaine.